France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Entendez-vous l'écho. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Nous avons donc une heure pour faire le point sur l'écho dans tous ses états. Avec, pour commencer, une question qui a beaucoup agité la semaine dernière lorsque on a appris qu'Amélie de Montchalin, jusqu'ici ministre de l'Action et des Comptes Publics, allait prendre la succession de Pierre Moscovici à la tête de la Cour des Comptes. Un mouvement qui interroge sur la neutralité et l'indépendance d'une institution chargée de contrôler la façon dont sont administrées les dépenses publiques. Alors de quoi se demander quelle est au juste la fonction et le rôle de cette fameuse Cour des comptes? Est-elle un contre-pouvoir en soi? L'est-elle devenue à l'usage? Et qu'est-ce qui fonde au juste son autorité? Réponse avec François Eckel et Thomas Lépinet. Et en seconde partie d'émission, retour sur l'histoire longue de la diplomatie économique française, alors que les tensions commerciales ne cessent de prendre des formes diverses au fil de l'actualité. Existe-t-il une façon qui serait typiquement française de négocier, de vendre et de défendre les intérêts de ces entreprises? Et d'ailleurs, comment expliquer cette alliance de l'État et du privé en matière de relations extérieures? La chercheuse Laurence Badel revient aujourd'hui sur la construction de cette relation sur près d'un siècle. Mais avant tout cela, retour en une parenthèse sur les événements de l'écho qui ont marqué la semaine passée. Une semaine résolument marquée par la question européenne. Tout a commencé lundi lorsqu'Ursula von der Leyen a envoyé un courrier aux 27 États membres plaidant pour la préférence européenne dans les secteurs stratégiques. Autrement dit, si vous êtes une entreprise qui bénéficie d'argent public, plus question de vous fournir en composants qui ne seraient pas européens. Et il faut dire que l'Europe est menacée, c'est ce que n'a pas manqué de rappeler un rapport publié lundi dernier par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, qualifiant la menace chinoise de vitale. Une question de vie ou de mort donc, mais derrière les constats et les intentions, dans les faits, comment s'y prend-on? Cette proposition de préférence européenne, par exemple, fait l'objet d'un projet de loi, mais sa présentation a été repoussée deux fois ces derniers mois, tant les tensions sont vives. La France est pour, elle a une filière de batteries pour véhicules électriques à protéger, l'Allemagne est contre, elle a une industrie déjà pas en grande forme à approvisionner et si possible à bas coût. C'est donc sans surprise que l'on a retrouvé ces tensions lors des deux événements qui ont marqué la semaine, le sommet de l'industrie à Anvers mercredi et le séminaire qui a eu lieu au château d'Aldenbizen en Belgique jeudi dernier. Le but, là encore, renforcer la compétitivité européenne pour résister face aux géants chinois et américains. Mais avec quels outils? Un programme d'emprunt commun au hasard? La France est pour, c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui a remis l'idée sur la table, mais l'Allemagne est contre, on prend les mêmes et on recommence. Alors de l'écran à la ville, les choses se passent-elles différemment hors des grands raouts où représentations et discours sont soignés étudié? Pas si sûr, et c'est ce qu'a montré l'exemple du programme d'aviation de combat européen SCAF. Le projet date de 2017 et l'idée est de produire d'ici 2040 la relève du Rafale et de l'Eurofighter en coordonnant les industries françaises, allemandes et espagnoles. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, le torchon brûlait entre Dassault dans le rôle de la France et Airbus dans le rôle de l'Allemagne et de l'Espagne. Lundi dernier, le vice-président du syndicat IG Metall et la présidente de la Fédération allemande des industries aéronautiques ont publié une tribune on ne peut plus claire face aux exigences de Dassault et face aussi au dialogue très compliqué avec ce dernier. Le mieux est encore d'arrêter là les frais. Berlin va donc développer son propre avion de combat au sein du SCAF. Bref, chacun chez soi et chacun pour soi. La coordination dans l'industrie et dans la diplomatie semble donc bien mal se conjuguer avec l'idée que chacun se fait de ses intérêts nationaux, et c'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis la semaine a bruissé d'annonces surprises et de bruit de couloir. Lundi à 14h, pile au moment où cette émission commençait d'ailleurs, ce fut celle du départ de François Villeroy de Gallo après 11 années passées à la tête de la Banque de France, passées au service de l'euro, selon ses mots. Quelques heures plus tard, à 19h30, on apprenait la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, place laissée vacante par Pierre Moscovici, parti lui à la Cour des comptes européenne. Une ancienne ministre chargée d'évaluer et de contrôler les dépenses et les stratégies menées alors qu'elle était au gouvernement. Voilà qui n'a pas manqué d'alimenter les commentaires et les soupçons de potentiels conflits d'intérêts. Et c'est l'événement sur lequel nous revenons aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho.
La Cour des comptes de la nation examine à la loupe les grands livres de l'administration. Cela va de l'opéra aux hôpitaux en passant par les indemnités sécheresse aux paysans du Gers par exemple. Bref, elle cherche à débusquer tout ce qui n'est pas normal et qui pourrait apparaître comme un certain gaspillage des deniers publics provenant de l'impôt.
Alors, ce n'est pas une surprise, vous le savez, mais Amélie de Montchalin a été nommée comme première présidente de la Cour des comptes aujourd'hui à compter du 23 février 2026.
Désigner un ministre en exercice.
Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, le 12 février 2026.
Qui va devoir juger le budget qu'elle a fait voter par le Parlement, en tout cas adopté par le Parlement au travers d'un 49-3, excusez-moi, mais c'est un peu osé.
Et puis il y a un vrai problème, c'est qu'elle devient présidente du Haut Conseil des Finances Publiques, qui donne un avis sur les budgets.
Éric Coquerel, député LFI, le 11 février 2026.
Et elle va donner un avis sur le budget, elle le dit elle-même, qu'elle est déjà en train de préparer. Ben, vous voyez bien que tout ça n'est pas possible.
La Cour des comptes, vous savez, répond à trois grands principes fondateurs. L'impartialité, la collégialité et l'indépendance.
Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement le 10 février 2026 à l'Assemblée nationale.
Amélie de Montchalin sera première présidente de la Cour des comptes, mais elle travaillera au quotidien avec 8 présidents. C'est ce qui fonde la collégialité des choix qui sont faits, la collégialité des débats qui auront lieu. Et par ailleurs, vous le savez, vous l'avez vu au cours des débats ici au Parlement sur le budget, Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans.
Alors la Cour des comptes est-elle un contre-pouvoir en soi ? Dans quelle mesure son indépendance est-elle le gage de son autorité et de sa légitimité ? Pour comprendre pourquoi la nomination d'Amélie de Montchalin a fait grand bruit ces derniers jours et ce qu'elle nous dit aussi de l'histoire et de la fonction de cette institution, deux invités font le point pour nous aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. François Eckel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un grand spécialiste des finances publiques, vous êtes le président de l'association FIPECO et vous avez été conseiller maître à la Cour des comptes, vous êtes désormais conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Peut-être un mot rapide pour nous expliquer en quoi cela consiste au juste ?
Alors, je suis conseiller maître honoraire. Honoraire, dans la fonction publique, ça veut dire qu'on est retraité. Donc, j'ai été conseiller maître, ce qui veut dire que j'étais magistrat à la Cour des comptes. Alors, il y a trois grades de magistrat. Il y a des auditeurs, des conseillers référendaires et des conseillers maîtres. Alors, on passe de l'un à l'autre à l'ancienneté pour l'essentiel. Voilà. Et donc, j'ai contribué au rapport de la Cour. Et j'étais, ce qui est très important, étant magistrat, j'étais inamovible.
Et on va revenir d'ailleurs sur cette inamovibilité également. Avec nous en studio, Thomas Lépinet, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'Université de Lille et membre du CERAPS, le Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales. Et vous êtes également l'auteur d'une thèse intitulée « Le pouvoir des rapports, la Cour des comptes, du jugement des comptes à l'évaluation des politiques publiques, années 50, années 2010, contribution à une histoire des grands corps de l'État ». Thomas Lépinet, on entendait dans ce mash sonore réalisé par François Richet, notre réalisateur, un bref rappel des fonctions de la Cour des comptes. Et nous sommes quelque part placé d'entrée de jeu face à un paradoxe. On a là un grand corps d'État chargé de contrôler, de critiquer, d'épingler, lit-on très souvent dans la presse, l'action de ce même État, bref, d'une sorte de contre-pouvoir au sein du pouvoir. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut décrire, définir l'action et donc la spécificité de la Cour des comptes ? Est-ce que cette position quelque part de double agent est pensée comme telle dès le départ ?
Alors effectivement, la Cour des comptes, c'est un contre-pouvoir dans la mesure où la Cour des comptes a régulièrement, à travers ses rapports, des choses désagréables à dire au pouvoir, hein, des critiques à faire sur la manière dont les politiques sont conçues, des critiques sur la manière dont les administrations peuvent être gérées. Mais c'est un contre-pouvoir qui ne se vit pas comme un contre-pouvoir. Et d'une certaine façon, c'est un contre-pouvoir qui n'a pas été créé comme un contre-pouvoir. La Cour des comptes, elle a été créée en 1807 par Napoléon. Napoléon, quand il crée la Cour des comptes, il ne souhaite pas donner gage à une opposition démocratique. Non, c'est un pouvoir autoritaire. Et donc, lorsqu'il crée la Cour des comptes, il veut faire une chose, il veut discipliner. Il veut discipliner ses comptables, il veut que l'État marche bien. Et donc, pour cela, il va créer une Cour des comptes qui va être chargée de vérifier le travail des comptables. Ça va être le jugement des comptes. C'est la première fonction de la Cour des comptes. C'est sa fonction historique, celle qui émerge dès le 19e siècle, le but étant de faire en sorte que les comptables de l'État fassent leur job de manière régulière, c'est-à-dire qu'ils ne commettent pas d'erreurs, mais qu'ils ne commettent pas non plus de fautes, qu'ils ne volent pas d'argent, par exemple, et de faire en sorte également que les gens qui engagent l'argent public, eh bien, eux-mêmes respectent les règles en matière de finances publiques.
Donc plutôt un impératif de rigueur plus que de contrepoids politique.
Voilà, il s'agit de discipliner, le réseau des comptables publics. Et puis une deuxième fonction va émerger beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, qui va être la fonction qu'on connaît actuellement, puisque la fonction juridictionnelle existe toujours. Hein. La Cour des comptes continue de juger, même si elle juge différemment de ce qu'elle faisait au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, on connaît surtout la Cour des comptes à travers ses rapports publics. La Cour des comptes, elle contrôle, c'est-à-dire elle regarde si les administrations sont bien gérées, mais d'un point de vue d'efficacité, de performance.
Comptable, oui.
Et puis, elle évalue les politiques publiques. Et dans cette fonction-là, le rôle de contre-pouvoir, il est beaucoup plus net, puisque ça lui donne une certaine visibilité médiatique qu'elle a acquise au fur et à mesure, et surtout depuis la fin du XXe siècle.
On va revenir sur cette inflation aussi du nombre de rapports et cette visibilité permise par le nombre de rapports publiés. Vous avez parlé de sa fonction juridictionnelle, c'est très important. François Eckel, on a un organe donc qui a un rôle de juge, hein, finalement. C'est ça qui est au cœur de cette institution, un pouvoir de trancher. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de magistrats, vous le disiez il y a quelques instants, en son sein. Mais aussi donc un grand corps d'État qui est chargé d'émettre des rapports techniques. Est-ce qu'on peut dire que cette dernière fonction, comme le disait Thomas Lépinet, plus technicienne finalement, l'emporte sur la fonction de juge? Dans le sens, on pourrait se dire, bah, si la Cour des comptes est seulement un juge, dans ce cas, il faut qu'il y ait une forme de séparation des pouvoirs, alors pas forcément constitutionnellement, mais en tout cas qu'on s'en assure. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a estampillé la Cour des comptes comme un organe purement technique, techniciste, et à ce titre-là ne fait pas l'objet d'une séparation des pouvoirs telle qu'il pourrait y en avoir dès lors qu'il s'agit, on va dire, de la justice en général?
Alors d'abord, la fonction de juge au sens strict de la Cour des comptes, la raison pour laquelle je portais la robe, c'est une fonction qui aujourd'hui est très minoritaire dans l'activité de la Cour, qui consiste en effet, comme on l'a dit autrefois, de juger les comptables publics. Aujourd'hui, ça s'étend à ce qu'on appelle les ordonnateurs, ceux qui décident en fait, mais uniquement pour des fautes très particulières. Je dirais, quand la Cour des comptes observe qu'un comptable ou un ordonnateur a commis des fautes de nature pénale, quand c'est de la corruption, quelque chose comme ça, elle saisit le juge pénal. Voilà. Donc, c'est pas elle qui juge. Donc, ses fonctions de juge, c'est aujourd'hui moins de 10% de son activité. Son activité principale, en effet, c'est d'apprécier le bon emploi des fonds publics. Voilà. À travers des rapports, mais des rapports pour lesquels elle n'a aucun pouvoir elle n'a pas de pouvoir sur ceux qui décident.
Elle peut recommander.
Ces rapports, elle fait des recommandations et elle ne peut obliger personne, je dirais, à suivre ses recommandations. Quand elle juge, quand elle condamne un comptable ou un ordonnateur à l'amende, elle condamne à l'amende. Il y a des procédures d'appel, de cassation, mais là, elle exerce vraiment un rôle de juge. Lorsqu'elle exprime une opinion à travers un rapport,
libre à chacun.
Après, chacun peut faire ce que le gouvernement fait ce qu'il veut. C'est normal. Dans un régime démocratique, ce sont les élus du peuple, donc les députés dans un premier temps, et puis ensuite gouvernement qui est responsable devant les députés, qui décident. C'est pas les juges ou les experts. Donc c'est pas la Cour des comptes.
Mais alors dans ce cas, on peut se poser cette question. Pourquoi au juste est-il important de garantir l'indépendance de la Cour des comptes? Le constitutionnaliste Benjamin Morel exprimait son avis sur la question. C'était mercredi dernier sur le plateau de France Info.
Ça pose un sujet de légitimité des institutions, vous savez, concernant les cours, et la Cour des comptes est une cour, la Cour européenne des droits de l'homme a une théorie qu'on appelle la théorie des apparences. L'important, c'est pas seulement que le juge soit impartial, c'est mieux qu'il le soit, mais c'est également qu'il ait l'apparence de l'impartialité. Parce que sinon, toute décision de la Cour est remise en cause, interrogée et remise en doute. Et à ce moment-là, c'est la confiance du citoyen ou du justiciable dans la justice qui est atteinte. Et ça fragilise le fondement des institutions. Et c'est vrai qu'après Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, maintenant Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, le danger à terme, c'est une forme de discrédit. Sans doute fausse sur le fond, c'est-à-dire que, encore une fois, les décisions sont collégiales et on peut penser que les intéressés agiront comme des juges impartiaux, nonobstant la collégialité, mais même avec ça, le doute s'insinue dans l'opinion, et ça, surtout en pleine crise de l'état de droit et en remise en cause des démocraties, c'est dangereux.
François Eckel, est-ce que vous souscrivez aux propos de Benjamin Morel? Il ne s'agit pas tant d'un doute sur les compétences ou sur la réalité de l'impartialité que d'une question d'apparence, de crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique. Finalement, pourquoi est-ce important de pouvoir garantir cette impartialité-là de la Cour des comptes?
Alors, qui est un problème d'image. Si on prend le cas concret que nous avons aujourd'hui devant nous, qui est la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. D'abord, d'un point de vue personnel, je n'ai pas l'impression que beaucoup de gens critiquent ses qualités personnelles.
De compétences.
Elle connaît le sujet, elle est bosseuse, elle a des qualités de communication, etc.
Bon. Il y a eu des petites remarques sur le fait qu'elle ne soit pas énarque elle-même.
Elle n'est pas énarque, finalement, ce n'est pas forcément si mal. Il y en a eu d'autres. Didier Migaud n'était pas énarque, il ne venait pas de la Cour des comptes. C'est pas la première. C'est la première femme, en revanche. Et elle a une compétence économique. Même si un agrégé d'économie vous dira que le diplôme d'HEC, ce n'est pas un diplôme d'économie.
On ne doit pas s'engager dans ce débat.
Elle est plus économique que juriste. Voilà. Ce qui n'est pas forcément mal dans un milieu qui est quand même assez largement beaucoup plus composé de juristes. Bon, voilà, ces qualités personnelles. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est qu'elle est jeune. Alors, c'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'elle est magistrate. Et donc, comme moi, en fait, elle est inamovible. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'obliger à changer de fonction avant qu'elle ait atteint l'âge limite de la retraite. Donc, potentiellement, elle peut rester là pendant 28 ans. C'est quand même un peu long comme bail. Au bout de 10 ans, on s'encroûte quand même, d'une certaine façon.
Et que, contrairement à vous, François Eckel, elle est premier président ou première présidente.
Elle est première présidente, bien sûr.
C'est un rôle spécifique.
Pas magistrat ordinaire. Voilà. Alors, moi, si j'étais à sa place, je dirais très vite que je m'engage, personne ne peut l'y obliger, mais que je m'engage à partir au bout de, à le choisir, 8 ans, 10 ans, etc. Migaud est resté quasiment 10 ans, bon, 10 ans, voilà, ça peut être un bon bail. Le deuxième problème que pose la nomination, c'est évidemment celui dont tout le monde parle. Le premier, pour moi, est plus grave, le fait qu'elle peut rester 28 ans. Le deuxième, moi, j'ai tendance à le relativiser. Le deuxième, c'est qu'elle est aujourd'hui ministre du budget. Et donc, elle a été ministre du budget pendant un an. Et donc, d'une certaine façon, oui, elle va être jugée partie. Mais là, ce qu'il faut bien avoir en tête, on l'a dit d'ailleurs dans les reportages, qu'une caractéristique essentielle de la Cour, c'est la collégialité. C'est pas elle qui écrit. Moi, j'ai écrit les rapports là, qui sont cités, qui vont être cruciaux dans les mois qui viennent. C'est en particulier, par exemple, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, ou le chapitre sur les finances publiques du rapport public annuel. Moi, je les ai écrits pendant 8 ans. C'est pas le premier président qui m'a dit ce que j'avais écrit. Je discutais beaucoup plus avec le président de chambre, de la première chambre. Là, oui, on a eu des discussions. Je discutais avec les autres conseillers maîtres de la chambre. Premier président, il arrivait à la fin. Donc, la collégialité, c'est quand même très important. Et donc, voilà, ça relativise. Il faut relativiser le pouvoir du premier président. Et en plus, je dirais, là, dans les prochains jours, sur le budget de l'année dernière et les prévisions pour cette année, dans les prochains jours, la Cour va publier son rapport public annuel avec un chapitre sur les finances publiques dans lequel elle va déjà dire l'essentiel. Et ça, Amélie de Montchalin n'y pourra rien. Elle sera probablement pas encore installée. Et pour ce qui est du Haut Conseil des Finances Publiques, dont j'ai été membre, c'est pareil. Le président du Haut Conseil, qui est le premier président de la Cour, il a une voix sur 11. Et y a des membres qui parfois discutent beaucoup.
Bon, on comprend, il y a une forme de mini-démocratie, on va dire.
Mini-démocratie, et à la fin, chacun vote éventuellement. C'est rare, mais s'il n'y a pas de consensus. Mais s'il n'y avait pas de consensus, chacun voterait et il n'aurait qu'une voix sur 11.
On se retrouve tout de même face à une situation curieuse. Thomas Lépinet, vous le disiez, il y a une forme de politisation, ne serait-ce que du simple fait de l'inflation du nombre de rapports publiés. Je crois qu'au moment où Pierre Moscovici quittait ses fonctions, il disait qu'il y avait une moyenne de 180 rapports publiés par an, ce qui est énorme par rapport. Et il disait que lui, quand il est arrivé, c'était à peu près un par an, et puis 35, mais bon, on est très loin des 180. Donc il y a cette politisation-là de fait, puisque cela inonde aussi quelque part le débat public, que ce rôle de contre-pouvoir, l'opinion publique attend cela de la Cour des comptes. Mais on pourrait aussi se dire que cette politisation même de la Cour des comptes a été fabriquée, a été voulue aussi par ces magistrats. Et on le voit si on regarde les parcours des premiers présidents qui ont précédé Amélie de Montchalin. Il y a une forme de politisation aussi de plus en plus fréquente. Comment on explique ce mouvement-là, Thomas Lépinet ?
Bien, il y a plusieurs choses. D'ailleurs, il y a premièrement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la Cour des comptes est devenue vraiment une actrice du débat public. Et donc, il y a un travail de publication qui est de plus en plus intense à partir des années 90. Et donc, la Cour des comptes se retrouve vraiment citée, débattue dans le débat public. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la nomination d'Amélie de Montchalin, elle pose question. Et ensuite, il y a le fait que des acteurs vont être choisis pour représenter la Cour des comptes. Alors, on va choisir à partir des années 80, c'est une rupture un peu avec ce qui se faisait auparavant, des anciens acteurs politiques. Il y a eu André Chandernagor dans les années 80, Pierre Joxe, Philippe Séguin, Didier Migaud, Pierre Moscovici. Et donc, ce sont des gens qui portent la voix de la Cour des comptes. Alors, ils ont une autorité particulière parce qu'ils ont été dans la politique, mais ils sont aussi des magistrats. Alors pour certains d'entre eux, des magistrats issus du corps, Philippe Séguin, Pierre Joxe, mais pour d'autres, c'est le cas d'André Chandernagor et c'est le cas aujourd'hui d'Amélie Montchalin, eh bien on a des magistrats hors du rang. Et c'est peut-être aussi une des questions qui est posée à travers les débats qu'on a aujourd'hui.
Et puis Thomas Lépinay, il y a la question des personnalités qui représentent cette institution, et puis il y a le travail même de la Cour des comptes. Et là se pose une question. On l'a dit, la Cour des comptes contrôle, il y a une forme de rigueur, elle tranche aussi parfois et elle fait des recommandations, de plus en plus souvent aussi liées au nombre de rapports qui augmentent. À partir de là, on pourrait se dire, mais là où il existe des textes de loi, ça n'existe pas en économie, il n'y a pas de doxa, il n'y a pas de texte fondateur qui permette de trancher si une action est bonne ou mauvaise. À partir de là, on pourrait se dire que par définition, la Cour des comptes est politique, a une vision de l'économie politique.
Oui, mais ce n'est pas une définition, une vision qui serait idéologique ou partisane. La Cour des comptes, elle n'est pas de gauche ou elle n'est pas de droite. Mais il y a une certaine culture professionnelle, une culture assez gestionnaire. On a un point de vue assez gestionnaire, c'est-à-dire qu'on veut que l'argent soit bien dépensé. Et donc, on va tendre à se dire, on peut faire mieux avec moins. Et donc ça, évidemment, ça résonne avec des thèmes qui existent déjà dans le débat public. Et c'est ça aussi qui va être un vecteur de politisation de la Cour. C'est-à-dire que ces recommandations vont être prises, mais par une part de l'échiquier.
Et François Cal, sur cette question, comment arbitre-t-on, comment juge-t-on de la pertinence d'une dépense, par exemple, quand il n'existe pas de consensus sur l'objet même de ce qui est jugé ?
Je vais vous donner l'exemple des sujets de politique budgétaire qui sont, comme on le voit aujourd'hui encore, avec toutes les difficultés qu'on a eues pour voter le budget 2026, sont pas du tout consensuels en France. Donc, en effet, le rapport annuel de la Cour que j'ai écrit pendant 8 ans sur les finances publiques, dans le public, il n'est pas consensuel du tout, parce que la Cour fait des recommandations que certains vont qualifier d'affreusement austéritaire, alors que d'autres vont dire la Cour est molle, elle ne demande pas de supprimer 200 000 emplois dans la fonction publique. Voilà, donc ça fait l'objet de beaucoup de polémiques. Je vais vous dire une chose, moi ce rapport, à un moment, il est présenté devant l'ensemble des conseillers maîtres. C'est quasiment une centaine de personnes. Ces rapports, ils sont adoptés de manière totalement consensuelle. Une fois, j'ai eu dans les 8 ans, je l'ai fait, une fois on est passé au vote. Parce que, en effet, il y avait un groupe de conseillers maîtres. D'ailleurs, je pense que certains qui ont signé la Tribune du Monde aujourd'hui en faisaient partie. Certains de ces conseillers maîtres ont dit, nous ne pouvons pas voter à ce rapport. Donc, on a mis au vote, ils étaient très largement minoritaires. Donc, de manière générale, alors qu'à la Cour, vous avez justement des gens qui, dans le débat public, expriment des opinions totalement différentes sur ces sujets-là, elle arrive à trouver, faire en sorte que ces rapports soient consensuels. Donc, c'est sa force. Hein, voilà, et je pense, et ça ne tient pas au premier président. Le premier président aurait été quelqu'un d'autre. De toute façon, ils ont tous voté, voilà, et le résultat aurait été le même.
Vous l'avez cité, François Eckel, alors je l'aborde de front. Il y a effectivement une tribune publiée ce matin dans le journal Le Monde et signée de l'économiste Pierre Calfa et de Jacques Rigaudia, qui avait pour le même rôle que vous. Et ils le disent très clairement, si la Cour des comptes est dans son rôle lorsqu'elle examine la sincérité des chiffres avancés par le gouvernement pour construire sa trajectoire budgétaire, elle ne l'est pas quand elle s'aventure à préconiser des orientations. Vous ne souscrivez pas ?
Le vote a eu lieu, ils étaient minoritaires. Voilà. Et donc moi j'ai écrit le rapport, et donc j'ai soutenu le rapport que j'ai écrit, donc je ne suis pas d'accord.
Thomas Lépinay, vous souhaitez réagir à cette question ?
Non, mais c'est juste pour dire aussi que la Cour des comptes s'exprime, mais il y a aussi d'autres acteurs qui font vivre l'évaluation. C'est-à-dire que le contrôle et l'évaluation ne doivent pas être portés uniquement que par la Cour des comptes, ils peuvent être également portés par les députés et sénateurs dans le cadre des commissions parlementaires, par la société civile ou par des universités. universitaire. Et c'est ça qu'il faut faire vivre au quotidien. C'est important d'avoir une Cour des comptes, mais c'est important que tous les citoyens s'en emparent.
Oui, mais on revient au sujet que j'évoquais un tout petit peu plus tôt, c'est cette très grande médiatisation des rapports qui n'est pas non plus un fruit du hasard, qui est aussi voulu en partie par les magistrats. À partir de là, Thomas Lépinay, à partir du moment où il y a cette volonté depuis les deux dernières décennies, est-ce que selon vous, il faudrait penser peut-être de nouveaux garde-fous ou en tout cas une façon de contrôler ce contre-pouvoir qu'est la Cour des comptes?
Alors, je sais pas quel garde-fou on pourrait imaginer, mais je pense que
la nomination à vie, par exemple.
Oui, ça, ouais, on peut réfléchir sur sur le pouvoir de nomination, sur les conditions dans lesquelles le métier s'organise. Mais c'est aussi à la Cour des comptes de savoir se positionner et faire en sorte que justement elle puisse garder la confiance de ses publics, hein, garder à la fois la confiance du gouvernement, mais aussi garder la confiance de tous ceux dans l'opposition ou parmi les journalistes qui peuvent se servir des travaux de la Cour des comptes qui lui font confiance et donc qui doivent continuer à lui faire confiance.
Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. François Eckel, je rappelle que vous êtes président de l'association FIPECO et Thomas Lépinay, vous êtes quant à vous professeur des universités en sciences politiques à l'Université de Lille. Et tout de suite, place à notre seconde partie d'émission où il va également être question de grands corps d'État et de hauts fonctionnaires. Mais nous allons scruter le côté diplomatique de la force quand l'État part à la conquête des marchés au nom de ses entreprises.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Les menaces de droits de douane de Donald Trump, la signature du Mercosur, les regards braqués sur Davos, l'accord de tous les accords passés entre l'Union européenne et l'Inde, les preuves que l'économie et plus précisément le commerce prennent une part prépondérante dans les relations internationales sont légion. Cette omniprésence de la dénommée géoéconomie à l'échelle mondiale pose une question. Et la France dans tout ça? A-t-elle une ligne de conduite, une façon qui lui est propre de négocier, de défendre ses intérêts? Et surtout, qui a voix au chapitre? Les grands groupes présents à l'international? Les petits patrons qui eux aussi exportent? Ou est-ce uniquement affaire de diplomates? Des questions délicates, tant le mariage de la diplomatie et du commerce ne semble pas aller de soi. On est là face à un mélange de compétences régaliennes, la diplomatie, domaine réservé s'il en est, et de compétences de terrain, d'expertise, voire d'intérêts privés. Or, de cette rencontre, puis de cette coopération, est né un concept, une idée, voire un idéal, celui d'une diplomatie économique française capable de faire face aux aléas du commerce mondial. Alors que la souveraineté et la sécurité économique sont dans toutes les bouches, entendez-vous l'écho remonte aux origines de cette notion et ce qu'il en est advenu depuis sa concrétisation au tout début du XXe siècle, une histoire qu'a tracée notre invité du jour, Laurence Badel. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire des relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit, il faut le dire, un très grand nombre d'articles sur cette vaste histoire de la diplomatie économique. Citons votre ouvrage « Diplomatie européenne 19e-21e siècle » paru aux presses de Sciences Po, ou encore « Diplomatie et grands contrats, l'État et les marchés extérieurs au XXe siècle » paru lui aux éditions La Sorbonne, qui suit le parcours des hommes qui ont fait cette diplomatie française et qui plonge au cœur des institutions, à commencer par le Quai d'Orsay, un Quai d'Orsay souvent mis en scène, c'est le cas dans la série Sous contrôle diffusée sur Arte.
Il faut voir les choses dans leur ensemble, vous avez une enveloppe. D'un côté, vous avez des dépenses, de l'autre, vous avez des recettes.
Des recettes?
Bah oui, votre job, c'est aussi de vendre le savoir-faire français à l'étranger. Aller chercher les contrats avec les dents. Technologie, parfum, vin, fromage, dans les ravis de France.
Attendez, mais moi je viens de l'humanitaire, pas des galeries Lafayette, et puis vous m'avez engagé pour la sollicitude, l'empathie, non?
Mais c'est de la diplomatie globale, le Quai d'Orsay. Et cet après-midi, vous avez rendez-vous avec Chichou, votre homologue chinois. Il y a la vente de 100 Airbus à 380 à la clé. Vous serez briefé par le conseiller Asie.
Un extrait donc de la série Sous contrôle diffusée en 2022, réalisée par Erwan Leduc avec Charlie Delvart au scénario et Léa Drucker qui incarne donc une ministre des Affaires étrangères qui prend tout juste ses fonctions et à laquelle le président de la République rappelle les priorités. Alors Laurence Badel, qu'est-ce qu'au juste que la diplomatie économique? Est-ce qu'il faut l'entendre comme on l'entendait à l'instant, comme l'idée d'aller chercher les contrats avec les dents, pour reprendre les mots qui viennent d'être prononcés? Est-ce qu'il s'agit d'un service que l'État rend aux entreprises ou l'idée de conformer les entreprises à la vision de l'État?
Bon, on peut dire pour commencer que c'est effectivement la mobilisation des acteurs diplomatiques, publics, parapublics et aussi des acteurs privés, mais tout ça sous l'égide des pouvoirs publics pour soutenir les intérêts économiques français à l'étranger. Donc ça passe à la fois par le soutien à l'exportation et aussi par le développement de politiques visant à attirer les investisseurs étrangers.
Est-ce que de ce point de vue-là, Laurence Badel, il faut distinguer une diplomatie qui serait économique d'une diplomatie commerciale, ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? On ne peut pas parler de diplomatie économique s'il n'y a pas la notion de commerce dedans.
Bah, à l'origine, on pense la diplomatie comme une diplomatie commerciale, comme un appui pour les commerçants, pour les exportateurs. Mais à peu près au même moment, la Première Guerre mondiale, l'effort de guerre qui rassemble les alliés vont conduire à la structuration d'une diplomatie économique multilatérale fondée sur la concertation, sur la coopération. Et donc, elle va recouvrir des aspects beaucoup plus généraux que la seule promotion des intérêts commerciaux. Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que c'est des dimensions extrêmement multiples, pour le dire ainsi. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en France, la façon dont est structurée cette diplomatie économique, alors là, je demande aux auditeurs et aux auditrices de s'accrocher parce que ça va être long. On a une direction de la diplomatie économique qui fait partie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. D'ailleurs, je rappelle ou je signale que nous avons un ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, c'est Nicolas Forissier. Mais nous avons également un service des affaires bilatérales de l'internationalisation des entreprises et de l'attractivité. Et là, c'est à la Direction Générale du Trésor que ça se passe. Et puis, on peut également citer Business France, qui est née de la fusion entre UBI France et l'Agence française pour les investissements internationaux, placée sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire. Et en plus de ça, on pourrait aussi évoquer les services économiques au sein de chaque ambassade. Bref, ça fait énormément de monde, pas dans les mêmes services, parfois même pas dans les mêmes ministères. Alors qui, aujourd'hui, Laurence Badel, est en charge de la diplomatie économique en France ?
Alors, d'un point de vue stratégique, depuis, disons, le début du XXIe siècle, le Quai d'Orsay a revendiqué ce rôle de tour de contrôle. Et depuis 2014, en particulier, le portefeuille du commerce extérieur est revenu en son sein. Mais cette multiplicité d'acteurs publics renvoie en fait à une lutte quasi séculaire qui a opposé le Quai d'Orsay d'un côté et puis ce qui est à l'époque le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est devenu le ministère de l'Économie et des Finances. Donc une lutte qui a duré en fait 80 ans entre les deux administrations pour savoir qui allait piloter cette politique économique extérieure.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est donc le Quai d'Orsay qui a remporté cette lutte ?
Alors, il l'a remporté parce que Laurent Fabius a remis la main sur le portefeuille du commerce extérieur qui avait échappé au Quai d'Orsay très précisément en novembre 18. De fait, ça a été un moment tout à fait important et je vois que beaucoup plus récemment, Monsieur Barrot a également mis la main sur les douanes, ce dont j'ai pris connaissance en lisant le compte-rendu de la conférence des ambassadeurs. Il n'en demeure pas moins que le Trésor aujourd'hui continue à jouer un rôle majeur en matière de ce que l'on appelle l'intelligence économique. C'est lui aussi qui a la main sur les outils financiers de soutien à l'export. Et comme vous l'avez dit, il existe aujourd'hui des missions économiques, des services économiques régionaux ou établis dans les États tiers, qui pilotent cette action à l'étranger. Donc de fait, il y a toujours ce duumvirat, Trésor et Quai d'Orsay, oui.
Au-delà de cette répartition, on va dire, administrative, dans quelle mesure, Laurence Badel, peut-on se dire que les ministères, quels qu'ils soient, fonctionnent, agissent, prennent des décisions, rendent des arbitrages en fonction d'une ligne commune ? Est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie économique à la française, d'une doctrine aussi, qui structurerait leurs actions et qui constituerait une forme de socle commun ?
Le socle commun, mais je dirais c'est vraiment un impératif qui a été exprimé depuis la fin du 19e siècle, ce serait d'arriver à forger ce qu'on appelle aujourd'hui une culture export chez les entrepreneurs français. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment exprimé à la fin du 19e siècle, dans le contexte que nous avons baptisé de première mondialisation, lorsque la France prend conscience de son décrochage vis-à-vis de l'Allemagne unifiée, qui s'affirme comme une puissance commerciale agressive qui est déjà orientée vers la conquête des marchés. Et donc, c'est le moment où le commerce extérieur va rentrer dans un cycle de déficit chronique. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une prise de conscience, un électrochoc qui fait que l'État va se dire qu'il doit venir aider les entreprises françaises à s'internationaliser.
Comment raconte-t-on cette histoire, Laurent Bedel, lorsqu'on est historienne comme vous des relations internationales? Comment s'y prend-on?
Alors d'abord, on s'enferme seul dans des services d'archives, que ce soit ceux du Quai d'Orsay ou ceux de Bercy aujourd'hui. Mais alors l'historienne que je suis accorde toujours aussi beaucoup d'importance aux entretiens avec les acteurs. Et donc, quand j'ai conçu le livre « Diplomatie et grand contrat », j'ai eu la chance de pouvoir interviewer non seulement d'anciens hauts fonctionnaires du ministère de l'Économie et des Finances, en particulier des hommes qui ont construit le dispositif français d'appui à l'exportation dès le début des années 1960. Et j'ai eu aussi la chance d'interviewer les toutes premières générations d'attachés commerciaux qui, à la libération, ont vraiment grandement contribué à construire le dispositif. Il faut vous représenter que quand on crée l'École nationale d'administration en octobre 1945, il y a une section qui est dédiée à l'international, c'est la section affaires extérieures. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les hommes que j'ai rencontrés pouvaient, par leur classement de sortie, choisir le Quai d'Orsay, et ils ont choisi l'expansion économique. Donc c'est cette histoire oubliée que j'ai voulu également mettre au jour dans ce livre, qui est un livre qui rend justice à l'action de ceux que j'ai appelés les fantassins de l'expansion économique, qui dans ces années, fin des années 40, début des années 50, s'estimaient mus par un véritable dessein qui était d'aider les entreprises plus petites à s'internationaliser, à sortir des frontières. Oui.
Laurence Bedel se pose toutefois une grande question qui va structurer toute notre discussion. C'est finalement pourquoi diable certains entrepreneurs ont eu besoin de l'État pour s'étendre à l'étranger, ou inversement, pourquoi l'État s'est-il dit qu'il avait besoin de ces entrepreneurs au sein de sa diplomatie. Alors pour le comprendre, vous avez commencé à le dire, il faut remonter à la toute fin du 19e siècle et je vous propose d'entamer les choses avec une archive alors de 1953 où l'on entend René Grand-Georges, directeur général de Saint-Gobain, faire référence aux lauriers hérités d'une longue histoire d'exportation.
Nous voulons faire mentir la légende qui prétend que les grandes firmes françaises s'endorment sur leurs lauriers. Nos deux centres de recherche doivent témoigner de la conscience que nous avons que le grand passé de notre compagnie lui a légué de grands devoirs. Et pour une société comme la nôtre, ne croyez-vous pas que le devoir de rester en avant du progrès ne soit pas un des premiers impératifs? Il y a en France des hommes qui savent mener de front les recherches pures et leurs applications pratiques. Parmi nos découvertes, il en est que nous exportons, et c'est là, je pense, sur le plan de l'économie française, un point particulièrement important.
Un grand passé qui lègue de grands devoirs, c'est donc René Grand-Georges, directeur général de Saint-Gobain. Et de fait, dès la fin du XVIIIe siècle, Saint-Gobain exporte. En 1870, Pont-à-Mousson exporte les deux tiers de sa production. Lafarge s'internationalise aussi bien avant 1914. Bref, on pourrait se dire que ces entreprises se débrouillent très bien toutes seules. Et pourtant, au début des années 1910, tout va bouger. Pour quelle raison, Laurence Bedel?
Alors, beaucoup de choses vont bouger. Et ça participe aussi sans doute du... Je ne sais pas s'il faut le dire... parler d'un modèle français, mais en tout cas d'un comportement français qui est fondé sur l'ambivalence. De l'attitude des entreprises françaises. C'est-à-dire ce mouvement qui les fait se plaindre d'un interventionnisme étatique excessif et qui les fait aussi se tourner vers l'État pour obtenir un certain nombre de facilités. Donc je l'évoquais, effectivement, dans la seconde partie du 19e siècle, on a à la fois des demandes, des réclamations qui remontent via les consuls de France à l'étranger, via les chambres de commerce... Et on a des plaintes des entrepreneurs qui estiment qu'ils sont trop peu informés sur les marchés extérieurs, trop peu soutenus dans leurs initiatives de prospection et de promotion de ces marchés extérieurs, et surtout qui estiment que tout le système du crédit, en fait, et la garantie de ces crédits à l'export n'existe pas et les met en difficulté par rapport à leurs concurrents étrangers.
Et de son côté, l'État y voit aussi une forme d'intérêt, puisqu'on se rend bien compte aussi à ce moment-là qu'on a accumulé un certain retard, vous le disiez,
par rapport à l'Allemagne,
par rapport notamment à nos voisins européens. Ça, c'est un aiguillon aussi pour l'État français.
Absolument, ça c'est un aiguillon, il faut affronter la concurrence internationale. Bon, j'évoquais l'Allemagne, mais on a tout à fait conscience, dès avant la Première Guerre mondiale, que les États-Unis d'Amérique, avec leur grand marché, est en train de devenir une puissance commerciale majeure. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à la toute fin en fait du 19e siècle, qu'un ministre du Commerce et de l'Industrie, un homme qui s'appelle Henri Boucher, va commencer à créer un certain nombre d'institutions, l'Office national du commerce extérieur, qui est en fait le très lointain ancêtre de l'actuelle Business France. Il crée aussi l'institution des conseillers du commerce extérieur. Ce sont des entrepreneurs français qui sont établis d'assez longue date à l'étranger et qui vont être labellisés en quelque sorte par le ministère du commerce. Leur mission va être d'accompagner justement les autres entrepreneurs qui souhaitent ou investir ou vendre sur les sociétés dans lesquelles ils sont implantés. Enfin, à la fin du 19e siècle, on commence à créer quelques postes encore très très rares d'attachés commerciaux rattachés aux ambassades.
Laurence Badel, si on vous comprend bien, et pour caractériser aussi cette période où les choses avancent, on en est vraiment là à la toute fin du 19e siècle, 1898-99, est-ce que ce qui fait le nerf de la guerre et de la guerre commerciale, c'est l'information économique? Est-ce que c'est cela qui compte le plus?
Oui, à cette époque-là, c'est vraiment identifié comme quelque chose de tout à fait nodal. Et je dirais que la coopération interalliée que j'évoquais au début de notre échange, cette coopération en particulier entre les Français et les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale va être tout à fait décisive pour que les Français prennent conscience que les Britanniques sont déjà en train de restructurer leur propre dispositif d'intelligence économique. Et c'est vraiment en Grande-Bretagne que les Français de l'époque vont chercher les éléments pour construire un service de l'information économique qui sera implanté au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie.
Cette histoire de la diplomatie économique, c'est l'histoire des hommes qui l'ont faite. Il faut en évoquer un, c'est Étienne Clémentel qui devient le 20 octobre 1915 ministre du Commerce et de l'Industrie du gouvernement d'Aristide Briand. Quelle est sa vision et en quoi a-t-il compté justement dans cette histoire de la diplomatie économique?
Alors vous avez raison, ça fait partie des rares hommes politiques français à l'échelle du XXe siècle qui ont eu une vision. Le défi qu'il formulait, c'était d'articuler une politique, je dirais, anti-allemande, défensive, un véritable projet de développement de l'économie française qui serait fondé sur son expansion extérieure. Mais alors, quand Clémentel se prononce, évidemment, on est dans le cadre colonial, impérial, donc c'est des débats tout à fait fondamentaux qui ne sont pas tranchés à l'époque, mais lui, il est partisan d'une certaine ouverture des frontières françaises, tout en ménageant une forme de protection.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Alors nous l'avons dit, Laurence Badel, il y a des hommes, peut-être les hommes dont on a retenu le nom, celui d'Étienne Clémentel, et puis des hommes qui ont un rôle de fantassin de ce très vaste programme qui est en train de se structurer dans ce début de XXe siècle, ce sont les attachés commerciaux. Il faut revenir sur leur rôle. Pourquoi ils sont essentiels pour comprendre cette histoire?
Ils sont essentiels parce que ils vont, grâce à Clémentel, devenir beaucoup plus nombreux à partir des années 1920-1930. Ce sont des hommes qui n'auront plus le profil diplomatique ou consulaire qu'avait la toute première génération d'avant la Première Guerre mondiale. Mais c'est des hommes qui deviennent attachés commerciaux au sein des ambassades, mais qui viennent du secteur privé. Et qui viennent souvent du service export des entreprises de l'époque, service export de André Citroën, etc., etc.
Donc avec une vraie expertise.
Avec une vraie expertise, une vraie connaissance des besoins des entreprises. Et je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante sur laquelle on a trop peu réfléchi parce qu'elle a été oubliée et parce que à la Libération, ce sont des hommes qui vont être formés par l'École nationale d'administration. Donc les attachés commerciaux dans l'entre-deux-guerres, oui, forment un réseau. Nombreux, ils sont là en fait pour assumer les fonctions de vendeurs, donc prospecter les marchés, faire remonter les appels d'offres et puis fournir un soutien quotidien aux petits entrepreneurs plus près du terrain.
On le comprend, c'est une fonction très pragmatique sur le terrain, vous le disiez, qui est donc fondée sur cette expertise. En 1950, le service des attachés commerciaux devient le corps de l'expansion économique. Mais ce terme d'expansion économique, c'est un terme officiel. Est-ce qu'on a changé, finalement, là où l'information économique était le nerf de la guerre? Maintenant, on se dit, on va passer à l'offensive, entre guillemets. guillemets, on veut vendre, on veut s'étendre, on veut l'expansion économique.
C'est une nouvelle fois le défi de l'internationalisation. C'est aussi la question de reprendre pied économiquement à nouveau face à une Allemagne dont il va falloir accepter le redressement industriel et économique et dont il va falloir admettre qu'elle va redevenir extrêmement vite une grande puissance commerciale. Et puis, c'est dans un contexte également d'ouverture de nouveaux marchés extérieurs, puisque les États anciennement colonisés accèdent progressivement à l'indépendance. Ces États dits du tiers-monde à l'époque ont de forts besoins d'équipement et cet équipement va leur être fourni par les États occidentaux capables d'exporter leurs biens.
Alors il y a une contradiction apparente mais qui oui. ne l'est peut-être pas, vous nous le direz Laurence Badel, lorsqu'on lit votre ouvrage, vous dites qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'attente des entreprises est très forte à la libération, mais dans un premier temps, c'est ce que vous dites, elle s'exerce dans le sens de moins d'États, d'un moindre interventionnisme, et pourtant, quelques décennies plus tard, dans les années 60, on parle d'un âge d'or de la diplomatie française, y compris économique. Comment on passe de cet interventionnisme qui ne fait pas tellement envie aux entreprises à cet âge d'or-là des années 60? Est-ce que les entreprises, les patrons, finalement, embrasse pleinement la cause de la diplomatie économique?
Alors, le moins d'État, il s'explique par le fait qu'on sort d'une période qui est celle de l'occupation allemande et qui est aussi celle du régime de Vichy, où l'économie a été extrêmement dirigée. Toute l'économie était encadrée par ce qu'on appelait des comités d'organisation. Donc, en fait, ce sont toutes ces contraintes du temps de guerre que les entrepreneurs veulent absolument desserrer. Mais ensuite, il va falloir admettre qu'ils continuent à avoir besoin et à demander un minimum de protection douanière. Et c'est aussi dans ce contexte-là que la France va penser son entrée dans le processus d'intégration européenne. Et puis à partir du début des années 50, là, on peut effectivement... dans la continuité de la stratégie de Clémentel, repenser effectivement une politique d'expansion tournée vers la conquête des marchés extérieurs.
Est-ce qu'on peut parler toutefois d'une forme de dirigisme, Laurence Badel, pour caractériser ces années 50, 60, 70?
Oui, je crois que jusqu'au tout début des années 80, on peut parler d'une économie administrée du commerce extérieur, parce que le dispositif qui va être construit repose sur un fort encadrement qui est effectué à la fois par les fonctionnaires du ministère des Finances et par les diplomates de la direction économique du Quai d'Orsay, et parce que l'État est présent partout, en fait. Oui, oui.
Alors, pour comprendre comment cette présence de l'État s'incarne, quels sont les outils à sa disposition, je vous propose d'écouter le témoignage de Norbert Segar, ministre des PTT, de retour d'un voyage en République populaire de Chine. C'était en 1978.
Nous arrivons en Chine pour un marché très important des télécommunications et en étant en avance de beaucoup de points de vue. En avance sur le plan technologique, en avance aussi sur l'attente qu'ont les Chinois d'une technologie moderne. Et de ce point de vue, pour généraliser peut-être mon point de vue sur la Chine d'aujourd'hui, ce qui m'a le plus frappé, c'est justement cette gourmandise, ce besoin qu'ont les Chinois de s'ouvrir au monde extérieur, au monde de l'industrie, de la science, de la technologie.
Un mot tout de même, il n'y a pas eu de contrat signé pour l'instant.
Ah non, c'est prématuré. Ce qu'il faut, c'est que les Chinois fassent leur choix d'abord sur la technique qu'ils vont prendre. Mais de ce point de vue, ils sont passionnés par les techniques d'avant-garde que nous avons, les techniques électroniques.
Une envie très forte, mais pas de contrat signé pour l'instant. Oui. Laurence Badel, c'est vous qui avez soumis cette idée d'archive. On entendait donc Norbert Segar. Oui. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous inspire cette archive? Que nous raconte-t-elle aussi de cette époque et des grands contrats?
Norbert Segar, c'était un homme politique, mais il s'est vraiment imposé comme le monsieur export, c'est The Economist de l'époque qui le baptise ainsi. Oui. Et lui-même, il se présentait comme un commis voyageur au service de l'exportation. Et donc, il va inaugurer une politique extrêmement active où il prend la tête de délégations d'hommes d'affaires qui viennent présenter leurs produits sur les marchés étrangers. Et donc, à sa suite, Raymond Bar, André Rossi, Jean-François Deniau viendront, puis les premiers ministres, et puis ce sont les présidents de la République. Hein. Je vous rappelle que Oui, c'est sans doute Jacques Chirac qui a été le premier, le plus volontariste en la matière. Il disait, quand je vais à l'étranger, je n'ai aucun complexe, j'y vais pour vendre les produits français. Dans un contexte qui est celui des années 90...
C'est ce que j'allais vous dire, Laurence Badel, c'est oui. qu'il y a ce tournant libéral aussi qui débute dans les années 80, qui se renforce dans les années 90. On pourrait se dire qu'il y a une forme de démantèlement, en tout cas de mise à mal aussi des services de l'État de façon générale. Qu'est-ce qu'il advient de la diplomatie économique à ce moment-là?
Alors bon, si on raisonne à l'échelle nationale, c'est effectivement le moment où le ministre Bérégovoy va mettre un terme à ce régime que j'ai qualifié d'économie administrée du commerce extérieur. Et c'est aussi le moment où un certain nombre de grands concurrents de la France, je pense au Royaume-Uni, au Canada, à l'Allemagne, commencent eux aussi à restructurer leur dispositif étatique d'appui et à faire émerger de grandes agences en charge de tout ce qui est export et investissement. Et ça, pour moi, c'était vraiment un des premiers marqueurs du retour de ces fameuses politiques de puissance qu'on semble découvrir aujourd'hui. Mais si l'on analyse la politique économique extérieure des États-Unis, de Bill Clinton à l'époque, ou si l'on regarde ces grandes restructurations, on se rend compte que la France est plutôt un peu en arrière à ce moment-là, et que pour ce qui concerne la normalisation et la fusion de tous ces multiples organismes de soutien au commerce extérieur, ça va advenir beaucoup plus tardivement, puisque je crois que Business France n'émerge qu'en 2015.
Mais l'idée même d'un État au service aussi des entreprises et donc d'intérêts privés, cette idée-là continue à faire consensus d'une certaine manière, ou est-ce que tout de même...
Ça fait consensus, mais toute cette politique française d'appui aux entreprises est très tournée vers ce que l'on appelle les grands contrats, c'est-à-dire des contrats de marché qui sont signés dans le cadre d'appels d'offres internationaux et qui sont signés avec un pays ou une institution. Alors, d'abord les grands contrats civils qui ont vocation à générer des exportations de biens d'équipement, donc c'est tout ce qui est aéronautique, équipement énergétique, alors centrales nucléaires, raffineries de pétrole, unités de traitement de gaz, toutes les activités liées à l'eau, à l'environnement, et puis également les grands contrats militaires. Mais tout cela pour dire en définitive que ça explique en partie un certain nombre de difficultés qu'on peut qualifier de pluriséculaire maintenant, à savoir qu'il y a toujours eu un décalage entre les résultats de ces grands contrats et le résultat du commerce courant, en fait.
Il y a un autre tournant en 2012, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, l'affirme, il est temps justement que les choses changent.
C'est vrai que j'ai mis beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle la diplomatie économique. Pourquoi ? À partir d'une donnée de base... Le déficit commercial de notre balance est de plus de 70 milliards d'euros. Et c'est un déficit qui est probablement plus grave que le déficit budgétaire, parce qu'il est beaucoup plus difficile à réduire. Si vous voulez réduire le déficit budgétaire, il faut faire des économies, mettre des impôts, bon, c'est très désagréable, mais vous y arrivez. Si vous voulez réduire le déficit commercial, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton pour que les entreprises exportent plus ou importent moins. Donc, il est tout à fait normal que l'ensemble des ministères compétents se préoccupent de cela, et au premier chef, évidemment, avec le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères. Mais il faut à Paris, qu'on monte un système pour que les entreprises soient un peu mieux coordonnées, que les PME, c'est ça notre grande faiblesse, vous le savez bien, quand on compare la France et l'Allemagne, c'est au niveau des moyennes entreprises qu'on a des difficultés. Ça ne veut pas dire du tout qu'on s'occupera moins de la grande politique, mais ce serait quand même paradoxal qu'alors que nous nous occupons de toutes les crises, la seule crise dont nous ne nous occupions pas, soit la crise économique. Donc j'ai mis cela vraiment au centre de notre action. Les entreprises en sont satisfaites, les diplomates aussi, maintenant, restent à obtenir des résultats.
Laurent Fabius, en 2012, qui oppose donc la grande politique à l'économie, comme une évidence. Ce moment de 2012, cette prise en main aussi par Laurent Fabius, c'est un tournant, Laurence Badel?
C'est peut-être un tournant pour le grand public, c'est pas vraiment un tournant au regard de l'histoire, parce que le discours de Laurent Fabius, il s'inscrit en fait dans la continuité d'un discours volontariste qui est incarné depuis les années 60 par les ministres des Finances. Je pense à des gens comme Wilfried Baumgartner ou Valéry Giscard d'Estaing. Et puis plus récemment, un ministre comme Hervé de Charette avait déclaré en 95 à l'Assemblée nationale, la diplomatie française sera économique ou ne sera pas. Donc je pense que plutôt que Laurent Fabius est venu parachever une intention qui a été réaffirmée justement à partir du milieu des années 1990. Mais il n'en demeure pas moins que Laurent Fabius a aussi beaucoup fait pour enraciner cette culture économique chez les nouveaux diplomates, les jeunes diplomates qui entraient au Quai d'Orsay.
Dans quelle mesure cette initiative a-t-elle porté ses fruits, Laurence Badel? On a vu notamment dans les tourments liés aux déclarations de Donald Trump, on a vu des petits patrons inquiets qui ne se sentaient pas écoutés, avec une forme d'espèce de remise en cause d'un capitalisme français qui était normalement beaucoup plus lié avec eux. Est-ce que c'est la preuve que finalement on n'arrive toujours pas à s'occuper, si ce n'est des grands groupes, aussi des PME, TPE?
Alors, en principe, les réformes qui ont été conduites font que c'est dorénavant à Business France que revient ce rôle, à cette agence parapublique, que revient ce rôle d'appui aux moyennes et aux petites entreprises. Et je pense que ces demandes et ces plaintes continueront. Hein. Ça fait partie aussi du jeu entre les acteurs privés et les acteurs publics.
Laurence Badel, une dernière question. Le 9 janvier 2026, Jean-Noël Barrot a annoncé la création d'une direction de la souveraineté et de la sécurité économique. Comment comprendre cet appel à la souveraineté économique? Est-ce qu'il faut le voir comme le pilier d'une nouvelle doctrine en soi?
En tout cas, c'est un nouvel avatar de cette direction de la diplomatie économique dont nous parlions à l'instant. Le concept de souveraineté, c'est vraiment l'un des nouveaux maîtres mots du discours national et international. On le décline dans tous les domaines d'activité, souveraineté alimentaire, numérique, etc. À toutes les échelles aussi, la souveraineté européenne. La souveraineté, c'est le langage de la puissance. Donc ça vient nous dire une perte de puissance et la volonté de recouvrer cette puissance. Et je pense que ça déplace aussi le curseur peut-être plus vers l'amont. C'est aussi l'idée de dire qu'il faut qu'on redevienne maître de nos filières productives, qu'on relocalise tout ce qui est production industrielle, parce que de fait, des États comme l'Allemagne et l'Italie ne sont absolument pas dans la même situation que la France.
Merci beaucoup Laurence Badel. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire des relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et tout de suite, il est l'heure de retrouver le fil éco tiré comme tous les lundis par l'économiste Alexandra Roulet.
Combien vaut la vie de chaque Français ? 3 millions d'euros, répondait en 2013 un rapport officiel, le rapport Kinney. Mais ce chiffre révèle une question morale vertigineuse. La vie d'un trader vaut-elle plus que celle d'un pompier? Celle d'un homme, plus que celle d'une femme? Si le gouvernement fixe le prix d'une vie, c'est qu'il en a besoin quotidiennement pour guider les politiques publiques. Faut-il limiter la vitesse à 80 km/h, financer ce dépistage du cancer, prioriser les malades atteints du Covid aux urgences? Depuis la Seconde Guerre mondiale, les économistes ont donc développé des outils pour donner une valeur à la vie humaine, conscient des enjeux moraux. L'histoire débute en 1948 en pleine guerre froide. L'US Air Force demande aux scientifiques américains de calculer la frappe optimale contre l'URSS. Leur réponse ? Construire en masse des avions bon marché servant de leurre. Le calcul est implacable, mais les généraux sont furieux. Cette stratégie implique des pertes massives parmi leurs pilotes et la valeur de leur vie n'a pas été prise en compte. Les scientifiques révisent leur copie. En 1968, l'économiste Thomas Schelling propose une alternative qui dispense les scientifiques de faire eux-mêmes des choix moraux. Plutôt que de valoriser une vie, demandons aux citoyens combien ils paieraient pour un équipement réduisant leur risque de décès. Un airbag, un casque de vélo. On convertit leur réponse en valeur de vie statistique, qui est donc la valeur qu'ils donnent eux-mêmes à leur vie. En France, deux ingénieurs présentent en 1960 une méthode différente pour la sécurité routière, actualiser les pertes de salaire futur qui représenteraient la valeur que donne la société à chaque vie. Cette approche du capital humain aboutit à des résultats dérangeants. Un homme de 40 à 45 ans vaudrait deux fois plus qu'un homme de 55 à 60 ans. En 1970, Françoise Fabre démontre en plus que cette méthode reproduit des inégalités de genre. Le dépistage du cancer de la prostate vaut le coup, mais pas celui de l'utérus. L'exemple le plus frappant vient après le 11 septembre 2001. Kenneth Feinberg, chargé d'indemniser les victimes, doit expliquer à la veuve d'un pompier que la vie de son mari vaut moins que celle d'un courtier d'assurance. La valeur de vie ne corrige pas tous ces problèmes. Elle conduit à des évaluations très différentes selon l'âge, le pays et le type de risque. Les 3 millions d'euros fixés par le rapport Kinney représentent donc une moyenne entre des valeurs obtenues en prenant en compte les salaires, la valeur de vie statistique et des comparaisons internationales. De l'armée à nos politiques de sécurité routière, calculer la valeur d'une vie reste une pratique indispensable mais redoutable. Elle nous rappelle qu'aucun calcul n'est neutre. Derrière chaque chiffre se cache une vision de ce que vaut une existence humaine.
Le Fil Écho, c'est un podcast à retrouver sur l'application Radio France et sur les réseaux sociaux de France Culture. Pour réécouter cette émission et retrouver toutes les références sonores, c'est sur la page d'Entendez-vous l'Écho que ça se passe sur le site de France Culture. Un grand merci à François Richet qui a réalisé et mis en onde cette émission et à Tina Young qui l'a mise en page.